franceinter.fr.
Bonjour. Au sommaire cette édition, le gouvernement qui sort le carnet de chèques pour tenter de satisfaire les policiers en colère, qui seront reçus d'ailleurs en fin d'après-midi à l'Élysée. Plus 300 millions d'euros, annonce le ministère de l'Intérieur ce matin. Invité de ce journal, Jacques Demaillard, prof d'université, spécialiste des questions de sécurité. Oui, nous ferons évacuer les opposants sur le site de Notre-Dame-des-Landes. Manuel Valls, invité de France Inter ce matin, s'est montré très ferme, accusant au passage Ségolène Royal d'affaiblir la parole de l'État. Le Premier ministre qui d'autre part a appelé la gauche à faire mentir les pronostics pour la prochaine élection présidentielle. Nous irons cette fois encore dans la jungle de Calais où les feux se multiplient ce midi et où la file d'attente constituée en principe de mineurs s'allonge. La préfète du Pas-de-Calais estime à 1000 le nombre de migrants qui restent dans la jungle. À cette heure-ci, à Paris, dans le 19e, ils sont 1500 à camper dans des conditions aussi difficiles. Dans cette édition également, la bataille de Mossoul qui se poursuit. Les forces irakiennes sont tout près de la ville. Le géant Apple qui voit son chiffre d'affaires baisser pour la première fois depuis 15 ans. Une réflexion sur le bruit subi sur les lieux de travail. Et puis, la préconisation cinéma d'Eva Bétan du mercredi, le dernier Ken Loach, moi, Daniel Blake. Vous, Sébastien Léas, vous êtes là pour le temps qu'il va faire aujourd'hui et on est en mode grisaille.
Oui, bonjour Alain. Les nuages bas et brouillards présents depuis ce matin évoluent lentement et difficilement. Le ciel va quand même s'éclaircir plus favorablement cet après-midi, en particulier en Champagne-Ardenne et du golfe du Morbihan au Nord-Aquitaine. Les éclaircies vont aussi revenir sur le Languedoc-Roussillon et la Provence avec un peu de mistral. En revanche, le temps sera plus perturbé sur le centre-est. Des averses sont encore attendues cet après-midi, principalement sur le relief, et quelques coups de tonnerre sont possibles sur les Alpes du Nord. Les Pyrénées, la Côte d'Azur et la Corse auront aussi également quelques averses en cours d'après-midi.
Alors les températures très originales, hein, vraiment douces au sud et de saison au nord.
Oui, c'est assez classique, hein, les maximales restent généralement stationnaires. Pour cet après-midi, prévoyez 14 degrés à Lille et Rouen, 16 degrés pour Paris et Rennes, 19 à La Rochelle et Valence. La douceur sera plus marquée sur l'extrême sud, 22 degrés pour Aix-en-Provence et Toulouse et 25 degrés à Ajaccio et Perpignan.
Les syndicats ont rendez-vous à l'Élysée ce soir à 18h. En ce moment même, des flics de base, comme ils se font appeler, sont en principe devant l'Assemblée nationale. SGPFO a appelé à une marche cet après-midi à Paris. On voit que les policiers n'ont pas l'intention de baisser les bras. En même temps, le gouvernement doit trouver de quoi les satisfaire. Voici donc une série de mesures qu'aurait pu leur annoncer directement peut-être le chef de l'État ce soir, mais que nos confrères du Monde, Nathalie Hernandez, viennent de révéler.
Oui, ce plan pour la sécurité publique répond enfin, diront les syndicats, à plusieurs de leurs revendications. Alors sur l'aspect matériel, comme l'a déjà annoncé le patron de la police nationale, la flotte des véhicules sera renouvelée dans sa totalité, les équipements aussi, avec de nouvelles armes longues et des lanceurs de balles plus précis. Des travaux de rénovation seront entrepris dans les commissariats. Nouvelle mesure en revanche, les compagnies départementales d'intervention vont être dotées des mêmes moyens que ceux donnés au BAC, les brigades anticriminalité, avec fusils d'assaut, casques balistiques et gilets pare-balles lourds. Sur les tâches indues, régulièrement dénoncés par les policiers en tenue, les gardes statiques devant les bâtiments devraient laisser la place soit à des patrouilles, soit à de la sécurité privée. Le ministre de l'Intérieur a d'ores et déjà obtenu l'accord de François Hollande pour une avance financière immédiate. Les sanctions pour délit d'outrage aux policiers et aux gendarmes seront alignées sur celles des magistrats. Elles passeront de 6 mois à 1 an de prison, de 7 500 à 15 000 euros d'amende. Enfin, quant à l'assouplissement de la légitime défense à laquelle s'oppose le garde des Sceaux, une réflexion devrait être engagée.
Merci Nathalie Hernandez, vous restez avec nous. Bonjour Jacques Demaillard.
Bonjour.
Vous êtes professeur de sciences politiques à l'université de Versailles-Saint-Quentin et spécialiste des questions de sécurité. Vous en pensez quoi de ce plan que vous venez de découvrir ?
Il y a des mesures intéressantes. Premier point, c'est que la sécurité publique avait été relativement oubliée dans les mesures annoncées sur ces deux, trois dernières années, où on s'était centré sur les unités spécialisées, sur l'antiterrorisme. C'est un retour à la sécurité publique, c'est la police du quotidien, je pense que c'est important.
Pour le flic de base, comme on dit.
Voilà. Et ce flic de base, c'est la majorité des effectifs, c'est celui qui est en relation avec la population, c'est le gardien de la paix, je pense que c'est un point important. Le deuxième point, c'est qu'il y a des mesures de rationalisation dont on parle depuis des années, mais qui me paraissent justes, sur les tâches indues, qui mobilisent des policiers qui coûtent cher. Un policier, un gardien de la paix, ça coûte cher, qui pourrait être tout à fait assuré par des forces de sécurité privées. Donc, de ce point de vue-là, il y a une rationalisation qui est encouragée par ce mouvement. Ça fera pas un changement majeur, mais ça me semble être une évolution positive. Troisième, ce que je note, c'est la prudence du gouvernement sur les demandes en matière de réforme judiciaire de la part des syndicats. Je pense que c'est une prudence qui se justifie. C'est-à-dire qu'on ne, je pense pas qu'on doive prendre des décisions de ce type-là en phase de crise. Mmh. Il faut les réfléchir. Et là, en l'occurrence, d'ouvrir des chantiers plutôt que de répondre immédiatement aux demandes des syndicats, ça me paraît être une prudence qui se justifie tout à fait.
Alors, par rapport à la colère qu'on sent depuis quelques jours des policiers, vous pensez que ça peut les calmer ?
Alors, le problème, c'est que cette colère, elle est très difficile à appréhender. La première chose, c'est qu'il y a une dimension de souffrance, de détresse, de colère, et tout ça, c'est très difficile à apaiser. Donc, est-ce que des mesures matérielles permettent de répondre à ça ? C'est une question qui reste ouverte. La seconde, c'est que les syndicats, il y a deux niveaux. Il y a le niveau de ces policiers mobilisés et le niveau des syndicats. Les syndicats ont vraiment du mal à mobiliser, à prendre la main. On l'a vu encore hier, ils sont divisés. Donc c'est un partenaire, mais je dirais pas que c'est un partenaire faible, mais c'est un partenaire incertain. Quant aux contours de la mobilisation des policiers en colère, ben c'est des contours qui sont également très incertains. On ne sait pas quels en sont les supports, quelles en sont les dynamiques. On a des porte-paroles qui s'improvisent du jour au lendemain. Donc on a quand même du mal à comprendre ce qu'ils attendent exactement, mis à part cette demande de reconnaissance qui est quand même très difficile à satisfaire.
Oui, voilà, on donne quelque part du grain à moudre, des moyens supplémentaires, mais vous le disiez, c'est quelque part cette reconnaissance que les policiers réclament. Je dirais un peu comme les enseignants qui ont de moins en moins d'autorité, qu'on respecte de moins en moins, et ça, comment faire revenir ça, c'est tout le problème.
Voilà, on est dans une situation de campagne électorale, qui est une situation où on répond à court terme. Il ne faut pas que ça s'embrase. Mais on a une situation de campagne électorale, et c'est un moment où on peut avoir une réflexion sur le rôle des enseignants, sur le rôle des policiers dans la société française, sur les relations police-public. Comment est-ce que on modifie les façons d'agir de la police ? Comment est-ce qu'on pèse sur le recrutement, etc.
Donc je pense qu'on a
une réflexion. On va utiliser cette campagne pour avoir une réflexion de plus moyen terme, pour répondre à ce malaise policier, qui est un malaise aussi plus large, police-population.
Nathalie Hernandez.
Il y a un volet qui n'a pas été encore évoqué, ça le sera peut-être ce soir, mais c'est la relation de la base avec sa hiérarchie et cette fameuse politique du chiffre qui a continué après 2012. Est-ce que là aussi, il ne faut pas ouvrir une concertation et revoir certaines choses et éviter de demander à un policier de lui dire aujourd'hui, il faut faire tant d'interpellations pour avoir tant de chiffres à la fin du mois.
Cette politique du chiffre, elle n'existe plus comme elle a pu exister sur la période 2006-2011 où ça tombait du haut et ça allait en bas. Aujourd'hui, on peut le trouver dans certaines poches, dans certains commissariats, mais il n'y a pas une logique nationale qui l'impose. En revanche, il y a toujours le risque de l'instrumentalisation de court terme de la police par le politique. La police, c'est un travail compliqué sur le social et il faut que le politique donne à la police du moyen terme sur la façon de construire sa relation avec la société. Donc de ce point de vue-là, s'il n'y a pas de politique du chiffre, il y a quand même ce risque d'instrumentalisation politique qui perdure.
Avez-vous le sentiment qu'il y a eu dans le passé une révolte, enfin en tout cas une colère policière aussi forte ?
On en a des traces, 83, 2001, 2001 ça avait duré longtemps, ça avait duré d'octobre après la mort d'un policier, justement 16 octobre 2001, ça avait duré jusqu'en décembre, mais ce qui en fait la singularité,
générale, hein, oui.
Ce qui fait la singularité de ce mouvement, c'est le fait que ça échappe aux syndicats. Mmh. Ça c'est une nouveauté. Et ça révèle quelque chose qui est effectivement relativement inquiétant sur le fonctionnement de l'institution policière, qui est pour partie lié à ce que les policiers ont subi dernièrement. Je crois qu'il faut rappeler ce qui est sans doute la cause majeure de la mobilisation, c'est que des policiers ont été tués parce que policiers suite à des actes terroristes et que des policiers ont été attaqués à Viry-Châtillon.
Merci Jacques de Maillard. Votre dernier livre paru l'an dernier, écrit avec Fabien Jobard, Sociologie de la police, ça veut tout dire, c'est parfait par les temps qui court. Vous feriez rapidement des ajouts avec les derniers événements sur
cette sociologie. On va demander à notre éditeur une réédition.
France Inter. Alain Passerelle.
C'est un dossier à très haut risque pour le gouvernement, à très haut risque tout court, tant l'antagonisme entre les pros et les anti-Notre-Dame-des-Landes semble irréductible. Ce matin sur France Inter, Manuel Valls a redit très clairement qu'il n'était pas question de céder et que cet automne, c'est-à-dire dans les semaines qui viennent, place serait faite pour la construction de l'aéroport pour le moins controversé. Le chef de gouvernement a en même temps envoyé un signal très clair à l'endroit de Ségolène Royal. La ministre de l'Environnement avait de nouveau dimanche exprimé son opposition au projet, allant même jusqu'à évoquer la possibilité d'un nouveau référendum.
Bien sûr, quand on s'exprimait, ça n'est pas n'importe quelle personnalité, Ségolène Royal. Et je la respecte, cette parole. Mais on ne peut pas affaiblir la parole de l'État. Donc, il y aura progressivement évacuation.
Progressivement ?
Oui, parce qu'il faut le faire avec zone, méthode, oui. Territoire par territoire, quand à partir de cet automne, parce qu'il faut défricher, parce qu'il faut des soubassements pour Notre-Dame-des-Landes, pour cet aéroport, donc cela se fera. Parce que si ça ne se fait pas, ça veut dire que demain, ceux qui parlent de démocratie directe, de démocratie participative, ne pourront plus en parler, puisque tout référendum d'initiative locale, soit à l'initiative des collectivités, soit à l'initiative de l'État, sur un projet important, ne pourra pas être mis en œuvre. Il ne peut pas en être autrement.
Elle affaiblit la parole de l'État, affirmation qui est grave venant d'un Premier ministre en direction de quelqu'un qui s'assoit chaque mercredi à la grande table de l'Élysée. Manuel Valls et Ségolène Royal ont-ils échangé quelques mots ce matin avant que ne débute le Conseil ? La ministre de l'Environnement, en tout cas sollicitée par Laurence Perron, a réagi dans la cour de l'Élysée.
Je ne polémique pas sur ces sujets-là. J'exprime des convictions, je recherche des solutions. Ma ligne, ça a toujours été la réconciliation entre la protection de l'environnement et le développement économique, et c'est tout. Il n'y a pas sujet à polémiquer. Moi, je refuse de polémiquer sur ces sujets. L'important, c'est de trouver des solutions, de sortir des blocages, de réconcilier les gens au service de l'intérêt général du pays.
Voilà, dans quelques jours ou quelques semaines, devrait donc débuter, si l'on en croit Manuel Valls, l'évacuation de la zone encore occupée par des zadistes. Les opposants au projet sont résolus à résister à ceux qui viendront les déloger, envers et contre tout. Et tout ça, Élodie Forêt, risque d'être très très violent. Et du côté des forces de l'ordre, on craint les affrontements à venir.
Oui, les forces de l'ordre qui craignent pour leur sécurité, qui craignent aussi de reproduire Sivens, qu'il y ait 2 ans après la mort de Rémi Fraisse, un nouveau drame. Car oui, sur la ZAD, c'est une quasi-guérilla qui se prépare. Ces dernières semaines, 800 personnes ont reçu sur zone des formations à la défense. Elles ont appris à se repérer dans les chemins, à marcher sans bruit, à faire valoir leurs droits aussi en garde à vue. Les zadistes ont également construit un hangar qui servira de point de repli. Enfin, ils multiplient les cabanes dans les arbres. Bref, ils attendent les forces de l'ordre de pied ferme, comme l'a encore redit un habitant.
Nous, on est là, on va rester là, quoi. S'ils nous attaquent, on reviendra. S'il y a une intervention ici, il y aura dans l'heure des milliers de gens qui viendront s'opposer physiquement aux machines, puis des actions décentralisées partout en France, dans les 200 comités de soutien. Ça prendra tout type de formes, depuis des manifestations, des rassemblements, mais aussi des blocages pour empêcher l'arrivée de la police, mais aussi pour effectuer des blocages économiques dans la région, mais aussi ailleurs en France.
Et imaginons que malgré ces blocages, l'évacuation ait lieu. L'enjeu, ça sera ensuite de tenir le terrain. Pour ça, il faudra mobiliser les forces de l'ordre pendant des semaines, voire des mois. Et vu les effectifs et le contexte de colère policière, ça semble aujourd'hui très compliqué de laisser plusieurs milliers d'hommes à Notre-Dame-des-Landes aussi longtemps.
Élodie Forêt, voilà pour Notre-Dame-des-Landes. Sinon, eh bien, ce matin sur France Inter, Manuel Valls a été interrogé sur la situation politique du moment. François Hollande et ses 4% de Français satisfaits de son action, peut-il encore se présenter pour être président une seconde fois ? C'est une décision intime, a répondu le Premier ministre. Il doit, a-t-il ajouté, tenir compte de la situation. Quant à la gauche en général, eh bien, ça n'est pas perdu selon Manuel Valls.
Je suis convaincu, contre tous les pronostics, que nous pouvons demain représenter un espoir.
Demain ?
À condition, demain, dans les mois qui viennent.
À la prochaine élection présidentielle.
Oui, bien sûr. Pourquoi ? Parce que toutes les propositions de la droite, d'Alain Juppé, de Nicolas Sarkozy ou de François Fillon, toutes ne rencontreront jamais l'adhésion des Français. Ça, je suis convaincu que les Français le refuseront.
Un espoir incarné par qui, Manuel Valls ?
Mais ça...
C'est le sentiment de résignation ou de honte que vous venez d'évoquer, il est lié aujourd'hui à la personne du président de la République, dont vous n'avez pas parlé depuis le début de cet entretien.
Je vous ai parlé de ce que je ressens autour de moi. Et j'ai le plus profond respect à l'égard du président de la République. Ce que j'ai à dire au président de la République, je lui dis directement. Parce que je pense que l'exercice du pouvoir, c'est l'intimité, c'est le respect de la confidence, c'est le respect, bien sûr, du secret.
Manuel Valls avec Patrick Cohen. Si vous constituez un ménage, vous avez un moral qui est régulièrement examiné par l'INSEE, et bien de façon générale, il s'est légèrement redressé le mois dernier. Vous êtes en moyenne plus confiant sur votre situation personnelle et votre niveau de vie future. Ça ressemble à un horoscope, mais encore une fois, c'est mesuré scientifiquement. La simplification administrative, 30 mesures pour les particuliers, après celle il y a deux jours pour les entreprises, ont été présentées ce matin en Conseil des ministres. Parmi elles, la possibilité prochaine de faire sa demande de carte d'identité entièrement en ligne. Plus besoin du fameux formulaire CERFA à remettre au bout d'une heure de queue. Le renouvellement du passeport devrait aussi être allégé, tout ça pour début 2017. Quant au délai de déclaration de naissance à l'état civil, il devrait passer de 3 à 5 jours. Il n'y aurait plus qu'un millier de personnes dans la jungle de Calais. C'est en tout cas le chiffre avancé en milieu de matinée par la préfète du département. Leur nombre était estimé entre 4500 et 6000. La préfecture qui dit à l'instant que les autorités sont en capacité d'achever l'évacuation de tous les migrants de Calais d'ici ce soir. Les cars, en attendant, continuent à partir. Les abris de fortune à être démontés. Bonjour Thibault Lefebvre.
Bonjour Alain.
Thibault, c'est vous qui suivez la vaste opération depuis quelques jours. Ce matin, devant la gare routière, il y a deux files d'attente de longueur très différentes.
D'un côté, une cinquantaine de majeurs et de l'autre, des centaines, peut-être un millier de moins de 18 ans. Parmi eux, Nissar, il a 16 ans et il fait la queue depuis plusieurs heures. Il estime à 20% le nombre de mineurs.
Regarde, c'est à tout qui est brassé. Il n'y a pas de mineurs, c'est 18 ans, 20 ans, 23, 24.
Pourquoi ?
Je ne sais pas, parce que passer en Angleterre, et à cause de ça.
À l'entrée de la file, le patron de l'association France Terre d'Asile, Pierre Henry, il fait un premier tri.
Je pense qu'il y a un monsieur là qui a manifestement un âge qui doit avoisiner les 30-40 ans.
Pas de sélection sur les apparences pour Pierre Henry, mais plutôt une question de bon sens.
Quand quelqu'un a 40 ans et plus et se déclare mineur, est-ce que nos équipes doivent le laisser passer ? Je ne crois pas. C'est pas un délit de faciès. Dès qu'il y a doute, il profite à la personne qui se déclare mineur.
Médecins du Monde comme Médecins Sans Frontières hier dénoncent la méthode. Françoise Sivignon est présidente de l'ONG.
L'âge n'importe pas, au-dessous de 18 ans, c'est pas leur problème. Il faut respecter les droits humains fondamentaux. Et nous, Médecins du Monde, on est sur une présomption de croire les gens, tout simplement. Quand ils se déclarent mineurs, on les croit a priori.
Conséquence de la pression des ONG, depuis ce matin, la sélection ne se fait plus à l'issue de la file des mineurs, mais à l'intérieur du hangar. Les migrants ont alors deux entretiens. Le premier avec les ministères de l'Intérieur français et britannique. Le second avec l'OFPRA.
Thibault Lefebvre en direct de Calais avec Jean-Pierre Pernet. Dans la jungle, de multiples incendies se sont déclarés ce midi, dans la continuité des feux volontaires qui ont détruit une partie du camp la nuit dernière. Pas de blessés, pas de danger. Il y a eu en tout cas 4 interpellations ce matin. On parle beaucoup depuis quelques jours, et c'est normal, de cette jungle de Calais. Mais à Paris, dans des conditions aussi difficiles que vivaient les migrants de la ville du Nord, ils sont 1500 à camper dans le 19e arrondissement, notamment aux alentours de la place Stalingrad, où s'est rendu Sylvain Tronchet.
Ce matin encore, l'association Petit Déj à Flandre va distribuer 600 petits déjeuners sur les bords du canal de l'Ourcq. Claire Pesslerbe a commencé toute seule cet été. Cette professeure ne supportait plus de voir des hommes affamés en bas de chez elle.
Très vite, il y a eu 100 personnes tous les matins, donc je faisais 3 seaux de thé. Je faisais ça juste en bas de chez moi. Ça m'a vite posé un problème financier. Au bout de 15 jours, je me disais, merde, comment je fais maintenant ?
Depuis, ils sont une petite centaine à se relayer. Le pain est donné par les boulangers du quartier. L'entreprise d'à côté prête sa cantine pour faire chauffer l'eau. Et Bénédicte vient donner un coup de main.
Il y a énormément de gens tous les matins qui viennent nous voir. On n'a aucune réaction hostile. C'est des gens qui disent, ah, mais c'est bien ce que vous faites, qui cherchent à comprendre comment on est organisé et à nous aider.
Mais en revanche, pas de présence de l'État ou de la ville de Paris, sauf lors des évacuations du camp, qui se reforme aussitôt. Alain Guillot et plusieurs voisins ont créé le collectif Stalingrad.
Ça ne serait jamais, jamais toléré dans aucun autre endroit. On nous loue pour notre solidarité, on dit qu'on est vraiment des gens qui sont admirables de supporter ça, mais au bout d'un moment, les personnes perdent le sommeil, perdent leur emploi pour certains. On a des nourrices dont les parents ne veulent plus leur confier des enfants parce que c'est les forcer à traverser avec des nourrissons un camp avec des personnes allongées sur des matelas de fortune.
La ville de Paris s'apprête à ouvrir son centre humanitaire non loin de là. Mais ces 600 places seront nettement insuffisantes. Sylvain Tronchet, France Bleu à Paris pour France Inter.
Direction Mossoul, où se joue, comme vous le savez, une bataille déterminante contre le groupe État islamique qui a fait de cette deuxième ville irakienne la capitale du califat. Le gouvernement irakien dit avoir enregistré hier le plus grand nombre de personnes déplacées depuis le début de l'offensive, 3300 précisément sur 24 heures. Philippe Randet, bonjour. Philippe, vous êtes notre envoyé spécial dans la région. Les forces spéciales irakiennes ne sont plus qu'à quelques kilomètres de la ville et vous étiez avec elles ce matin.
Oui, nous avons pu avancer il y a quelques minutes de plusieurs kilomètres avec les forces spéciales irakiennes, mais difficile de vous dire avec certitude à quelle distance exactement la Golden Division, la division or, se trouve de l'entrée de Mossoul, car ce qu'il faut bien comprendre, c'est que Mossoul est une ville de 2 millions d'habitants, plus étendue que Paris. Du coup, il est très compliqué de faire la différence entre la périphérie, les villages aux alentours et les premiers quartiers de la capitale autoproclamée du califat. Mais ce qui est évident et ce que je peux vous confirmer, c'est que Mossoul se rapproche. La route que nous avons emprunté est un véritable champ de ruines parsemé de carcasses de voitures, de mines et de gravats. Aucun civil, évidemment, à l'horizon. Quelques tirs de snipers rappellent que les djihadistes du groupe État islamique sont juste devant. Les avions de la coalition survolent la zone, mais il semble que les forces spéciales irakiennes n'avancent plus pour l'instant. Sur les autres fronts, notamment celui de Bachika, à l'est de Mossoul, même statu quo. L'offensive des Peshmerga kurdes a été plusieurs fois retardée. Une offensive pour entrer dans Mossoul qui sera de plus en plus tendue, car ici tout le monde en est persuadé. Plus les premiers immeubles de Mossoul vont se rapprocher, plus la résistance djihadiste sera féroce et désespérée.
Philippe Randet dans la région de Mossoul avec Raymond Albouy à ses côtés. Ils se livrent, eux, à une guerre économique. Ça ne va pas bien fort en ce moment pour les deux maîtres mondiaux des smartphones et autres tablettes. On suit les déboires de Samsung avec les batteries de son dernier modèle qui explosent. Rien d'aussi grave avec le géant Apple, mais tout de même, son chiffre d'affaires, Maxime Deps, est en baisse pour la première fois depuis 15 ans.
Oui, première raison à ça, l'iPhone 6, lancé il y a un an avec son écran de plus grande taille, copié sur la concurrence, il n'a jamais réellement séduit les consommateurs, beaucoup moins que les modèles précédents, à tel point qu'Apple, il y a quelques mois, s'est senti obligé de sortir un nouvel iPhone intermédiaire, l'iPhone SE, plus petit, moins cher, mais visiblement, ça n'a pas suffi. Aujourd'hui, les ventes de l'appareil fétiche d'Apple affichent 3 trimestres de baisse consécutifs. En près de 10 ans, c'est une première, et c'est un coup dur pour la marque à la pomme, dont l'iPhone représente plus de 60% des recettes. Un coup dur qui s'ajoute à l'échec de l'iWatch, cette montre connectée qui visait justement à limiter l'iPhone dépendance du groupe. Alors bien sûr, Apple peut toujours espérer se ressaisir d'ici la fin de l'année avec Noël qui approche et l'iPhone 7 qui vient de sortir. Tout n'est pas perdu, d'autant que les déboires de Samsung, vous le disiez, et de ses batteries qui s'enflamment pourraient faciliter la tâche du PDG Tim Cook. Ce dernier promet d'ailleurs un rapide retour à la croissance.
Maxime Deps. C'est parti à ITélé pour un 10e jour consécutif de grève. Les salariés ont voté très largement encore ce matin la poursuite du mouvement. Ils devraient rencontrer cet après-midi un des hauts dirigeants de Vivendi. Il y a les journées de, les années pour. Cette semaine, c'est celle de la santé auditive au travail. Il s'agit d'alerter, vous l'avez compris, sur la souvent insuffisante prise en compte des effets auditifs sur votre lieu d'activité. Corinne Cutillat s'est rendue à Toulouse dans une cantine d'entreprise.
Dans la file d'attente d'un restaurant d'entreprise, on entend des bruits de plateau, de vaisselle, des éclats de voix. Mais le bruit, le vrai, c'est dans la cuisine ou dans la salle de plongée qu'il se trouve. Nicolas débarrasse les plateaux et remplit le lave-vaisselle.
Vous avez donc les hautes aspirantes, le bruit de la vaisselle, la machine de plonge-vaisselle, bien sûr. Ça arrive qu'on ait les oreilles qui sifflent de temps en temps. Mais maintenant, les locaux sont quand même adéquats par rapport aux conditions de travail. On a beaucoup moins de soucis qu'il y a peut-être 15 ans en arrière.
Le cuisinier, c'est Kamel. Lui est constamment exposé à différents niveaux sonores.
Venez avec moi, vous allez voir. On a pris déjà des mesures au niveau de la médecine du travail. On était juste en deçà du nombre de décibels autorisé. Mais au bout d'un certain moment, on s'aperçoit d'une chose avec mes collègues et moi, c'est qu'on a le verbe « haut ». On parle plus fort, surtout quand on éteint la ventilation ou quand on rentre chez nous. Et que si j'éteins ? Voilà, là on a du calme.
Dans la pièce voisine se trouve la salle des réfrigérateurs.
Là, on est dans un environnement bruyant. On a quand même à notre disposition par notre entreprise des bouchons d'oreilles. Voilà.
Mais vous les mettez les bouchons ?
Comment ?
Les habitués du restaurant, eux, ne se plaignent pas plus que ça du bruit. Mais c'est bien connu, ventre affamé n'a pas d'oreilles. Toulouse, Corinne Cutillat, France Inter.
Et côté bruit, hier matin, les 600 habitants du village d'Otta, en Haute-Corse, ont été gâtés. Ça tirait dans tous les coins, ou presque, et n'allez pas penser qu'on est habitué en Corse. Des habitants se sont retrouvés nez à nez avec des parachutistes du 2e régiment étranger de Calvi, qui effectuait un exercice, petit hic, personne n'avait été prévenu, en tout cas pas les habitants, dont Pascal, qui n'a pas vraiment apprécié lorsque Marion Galland l'a appelé, n'est-ce pas Pascal?
Ça va un peu mieux, mais il fallait y avoir des morts. Mon fils, il s'en va se travailler 6h30, et puis d'un coup, ça monte du village, mais il fallait voir, au Kitanteguer, il fallait voir, ça tirait de tous les côtés. Mais c'est de la folie de faire des trucs comme ça, il aurait pu y avoir un massacre, on est tous des chasseurs, on est tous armés, on a tous des carabines et des fusils de chasse, on aurait pu faire un carnage. C'est un truc de fou, les gens criaient de partout. Ils étaient au moins 300, ça sortait de tous les côtés, ça mettrait de tout dans tout le village. Oh, ça serait cru en guerre. J'ai appelé la gendarmerie, ils étaient même pas courage action. Qu'est-ce que ça veut dire ça? J'ai mes voisins, tout ça, et il faut voir dans l'état où ils sont. Avec tout ce qui se passe maintenant, alors, on ne fait pas des trucs comme ça. Alors, quand on fait des trucs comme ça, on prévient sa population. C'est inadmissible de faire des trucs comme ça.
Football, avec la suite des 16e de finale de la Coupe de la Ligue, en suivant en particulier ce soir l'OM qui s'en va jouer à Clermont, et puis ça semble sérieux, Laurent Blanc pourrait se retrouver rapidement sur le banc de l'Inter de Milan. On termine avec, comme chaque mercredi, Eva Bétan. Bonjour Eva.
Bonjour.
Qui nous fait part de son choix cinéma de la semaine, ce sera cette fois, et c'était incontournable, hein, Moi Daniel Blake, Palme d'Or du dernier Festival de Cannes. Alors rapidement, Moi Daniel Blake, c'est l'histoire d'un menuisier anglais de près de 60 ans, contraint pour la première fois de sa vie à faire appel à l'aide sociale à la suite de problèmes cardiaques. Son médecin lui a interdit de travailler, mais il se voit obligé de chercher un emploi sous peine de sanctions, d'où une situation ubuesque ou kafkaïenne, comme on dit. Ken Loach qui montre une nouvelle fois les humbles face aux humiliations qu'ils subissent. Alors, plus que du film, vous avez eu envie de parler du réalisateur. Les films de Ken Loach, Eva, sont vraiment des marqueurs de la société britannique.
Et surtout, tu dirais, de la condition ouvrière, de celle des plus humbles. Loach ne raconte jamais une histoire globale. Il peint des bouts de vie avec, il faut le dire, un regard engagé à la gauche de la gauche, dirons-nous. 2016 donc, Moi Daniel Blake, avec quelle dureté l'équivalent de notre Pôle emploi traite les chômeurs, les malades.
Alors on va remonter aux années 90, Eva.
Les effets de la politique de la très détestée par lui, Margaret Thatcher, continuent d'avoir des conséquences en termes de chômage, notamment sur les ouvriers. Exemple, 1993, le formidable Rolling Stones. Deux chômeurs veulent acheter une robe de communion pour une fillette. La vie est implacable et en même temps il y a encore des solidarités, des rires. 1998, My Name is Joe. Tony Blair est au pouvoir, mais pour Loach, il n'y a pas de grande différence. Apparaît cette idée d'une hiérarchie parmi les humbles, un monde sépare celui qui a un emploi, même très modeste, d'un chômeur.
Et on passe aux années 2000.
2001, The Navigators, la privatisation des chemins de fer britanniques. On est passé du statut à la précarité. Unfortunately, the days of a job for life are gone. If you can't work, then we don't pay you. It's as simple as that. Et la concurrence agit comme un poison pour fissurer les solidarités. 2007, It's a Free World. L'individualisme contamine les ouvriers aussi. La jeune femme du film pourrait être la fillette de la robe de communion de Rolling Stone qui aurait grandi. Elle a été exploitée, ça suffit. Quand elle crée son agence d'intérim, elle emploie les mêmes méthodes d'exploitation que les autres patrons. Et nous voilà donc en 2016, Moi Daniel Blake, deux chômeurs isolés, seuls au monde, considérés comme le pouvoir, comme des inutiles, considérés par le pouvoir comme des inutiles, des entrots, dit notre ami Loach.
Merci Eva. Moi Daniel Blake sur les écrans depuis ce matin. Je précise que c'est un film inter. C'est pas pour ça qu'on en parle. Hein. À suivre si pour en savoir encore.
Palme d'Or aussi. Hein.
Bien sûr. Pour en savoir encore plus sur Ken Loach, un documentaire sur Arte ce soir consacré au cinéaste. Cinéaste en colère, c'est le titre du doc à 22h30 et des poussières.